manquer.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi!
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande! Au secours!
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30, en partenariat avec Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire et L'Incorrect. Au programme de cette émission, nous allons parler d'Hitler. Deux invités. Tout d'abord, Marceau, dessinateur, auteur de bande dessinée, co-éditeur, créateur d'un univers immédiatement reconnaissable, qui publie aujourd'hui, ou ce mois-ci, une nouvelle bande dessinée. Objectif 2027, le candidat, hop, je le mets devant la caméra, le candidat imprévu. À 18h30, nous recevrons Dominique Lornet, historien, écrivain, auteur de très nombreux ouvrages, plus d'une centaine, consacré à l'histoire militaire et politique, et qui publie donc Les vérités cachées de la victoire de 1945, où il est question également d'Adolf Hitler. Alors, je vous annonce, je vous rappelle, que vous avez également le magazine L'Incorrect du mois qui vous attend chez votre marchand de journaux. Il est super bien, donc allez-y. Et puis en plus, nous sommes allés à Saint-Denis, avant que le nouveau maire de Saint-Denis soit élu. On a emmené Marguerite Stern, Alexandre Devecchio et Marion Maréchal, donc en territoire occupé, dans la basilique, pour faire un reportage et une conversation. Je ne peux qu'évidemment que vous le conseiller. Donc programme chargé, pour m'accompagner aujourd'hui, Rémi Carlu. Rémi, bonjour.
Bonjour Arthur.
Romaric, c'est la semaine prochaine. Marco Brégon. Bonjour Marc, vous allez bien?
Très bien.
Vous allez nous faire une petite chronique ciné sur un film très attendu, mais ça sera à 18h ou 19h. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission et poser vos questions à nos invités par courriel à courtoisie@rc.fr et par téléphone au 01 46 51 00 85. Marceau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Alors, donc vous êtes dessinateur, on vous connaît, auteur de bande dessinée. Les auditeurs vous connaissent bien, observateur féroce de notre époque. Vous avez construit au fil des années un univers graphique et satirique très identifiable, avec un ton, un trait, une liberté assez rare dans le paysage culturel français. J'en veux pour preuve, Objectif 2027, le candidat imprévu. Je vous le dis, je vous raconte le pitch comme on dit en Auvergne. À chaque chaque échéance électorale, on ne parle que de lui. La gauche le voit dans tous ses adversaires, la droite rampe et se renie pour éviter cette diabolisation. Et s'il revenait vraiment, lui, les heures sombres, les bruits de bottes, s'il se présentait aux élections 2027 et s'il s'emparait de la République. Un petit indice, cette personne a un léger accent allemand et porte une moustache. Alors, je peux vous dire que c'est très, très réussi. Déjà parce que le scénario se tient parfaitement jusqu'au bout et qu'évidemment, bah, vous sulfatez bien comme il faut tous les totems, vous arrosez au lance-flamme presque toute la classe politique et médiatique. Et à chaque page, on se dit, il va quand même pas oser. Bah si, il ose. Et c'est très, très drôle, férocement juste. Mais alors, on va longuement parler de cette bande dessinée, mais aussi on va parler de votre parcours. Peut-être que nos auditeurs vous connaissent moins, de votre métier, et puis de votre maison d'édition, Magnus, qui n'arrête pas de faire parler d'elle, qui est donc aussi une aventure culturelle, intellectuelle et éditoriale. Mais vous le savez, chers auditeurs, Radio Courtoisie est attachée aux traditions, et nous en avons une, nous restons courtois, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Marceau, vous êtes plutôt Gottlieb ou Edika?
Gottlieb.
Si Laura Magnier, votre éditrice, était une arme de guerre?
Un fusil de précision équipé d'un silencieux, mais qui rate jamais sa cible.
Fluide glacial ou harakiri?
Harakiri.
Si Laurent Oberton était un plat cuisiné?
Alors, quand je pense à Laurent, je ne pense pas à un plat cuisiné particulier. Je penserais plutôt à un plateau de fromage et à des bouteilles de vin, parce que c'est notre alimentation principale quand on se voit.
C'est un bon fioul.
Voilà.
La BD franco-belge la plus surestimée?
Alors, je ne lis pas assez pour être déçu à la lecture d'une BD. Donc, j'en ai pas spécialement en tête.
Et si je vous demande alors le plus injustement oublié, et vous pouvez enlever le franco-belge et prendre que franco si vous voulez, ou que belge.
Alors ce serait plutôt un auteur qui vient de Fulglacial, c'est Gossens, qui est un auteur absolument génial. J'en ai tout à l'heure parlé à quelqu'un qui m'a dit « mais je sais pas qui c'est ». C'est un auteur absolument génial qui est injustement méconnu, et voilà, lui il est vraiment injustement oublié.
Vous avez quelques titres ?
Quelques titres, bah, là je les ai même plus parce que j'ai lu surtout des pages dans Fulglacial,
ouais.
Beaucoup de pages, mais je me rappelle plus des titres des albums précisément. Mais c'est un auteur assez prolifique et il est absolument excellent tant sur le plan graphique que sur le plan des scénarios. C'est de l'absurde mais poussé à l'extrême, c'est à dire que si on n'est pas connecté au 74e degré, ça prend pas. Donc en gros, pour le grand public, ça prend pas du tout et on comprend pas où sont les blagues, où sont les chutes. Mais c'est un auteur absolument. Absolument géantissime.
Comment ça s'écrit, pour qu'on retienne ?
G2O2SENS. J'espère qu'il m'en voudra pas de dire que j'aime bien son travail, parce que je sais que je suis un peu radioactif au sein de l'équipe Fulglacial. Mais en tout cas, voilà, je demande aucune contrepartie et je dis qu'il est vraiment excellentissime.
Quel est l'auteur de BD le plus politique ?
Tout le monde est politique. Maintenant, il faut voir de quel bord on parle. Je pense qu'à droite, avec auteur un petit peu à succès, c'est moi, le plus à droite, et le plus à gauche, c'est tous.
Quelle est la personnalité politique la plus chiante à dessiner ?
Alors, j'ai pensé d'abord à Sandrine Rousseau, parce qu'elle n'a pas de trait physique particulier. Elle n'est pas particulièrement difforme, elle n'est pas en surpoids, elle est assez jolie pour son âge. Donc elle est assez compliquée. Tout à l'heure, j'ai regardé la page Twitter, enfin X, de Emmanuel Grégoire. Et je pense que c'est lui, finalement, qui est le plus chiant à dessiner, parce qu'il est encore plus banal que Sandrine Rousseau. Et donc voilà, en gros, c'est les gens qui sont banals et qui n'ont pas de choses particulières. Macron n'est pas très très simple. On peut réussir à le gérer avec son grand front et sa houppette, mais c'est pareil, comme il est assez beau gosse, en fait, il n'y a pas grand-chose à quoi se rattacher.
Et la plus jouissive à dessiner ?
Et Brigitte Macron. Un vrai bonheur.
Alors, Macron, voilà, elle est en quatrième de couverture. Vous la voyez là.
C'est vraiment, vraiment un grand plaisir. En plus, on a vraiment une marge de manœuvre assez, assez large avec la perruque. Enfin, avec les cheveux. Enfin, en tout cas, on peut y aller, quoi. On n'est pas précis.
Si vous deviez prendre un verre avec un dessinateur, ce serait qui ? Et vous lui poseriez quoi comme première question ?
Vivant, aucun. Et si on peut choisir parmi les morts, oui. Ce serait évidemment Gottlieb. Et je pense que je me trouverais dans un état émotionnel tellement, tellement élevé que je n'aurais pas de questions particulières à lui poser.
Et enfin, si vous deviez résumer la France en un seul dessin, on y verrait quoi ?
Dans l'état actuel des choses, ce serait le haut de la France, donc on va dire vers le Nord-Pas-de-Calais un petit peu, enfin les Hauts-de-France maintenant, qui dépasse tout juste de l'eau. On est presque immergé.
Merci Marceau. Alors, on va longuement parler de votre bande dessinée, mais on va commencer par vous. Toujours bien de savoir d'où vous écrivez, comme on dit de gauche, quoi, d'où vous dessinez plutôt. Donc Marceau, comment vous est venue la passion de la bande dessinée ?
Alors j'ai toujours dessiné un peu mieux que les autres, donc ça doit faire, c'est ce qu'on appelle le don, parce que chez un bon artiste, il y a toujours une part de don infime. Et puis le reste, c'est que de la discipline et que du travail. Donc moi, j'avais ce petit don qui faisait que je dessinais un peu mieux que les autres. Et j'ai eu un parcours ensuite scolaire chaotique. Et je me suis retrouvé à faire un CAP de maçonnerie à 16 ans. Je continuais en parallèle à dessiner des conneries sur le coin des bars, des trucs comme ça. Et je sais pas, sur les coups de à peu près 19 ans, j'ai un copain qui me lance un pari, très éméché, et moi je l'étais certainement aussi. En me disant, écoute, tu gâches ton talent à faire des bricoles comme ça sur des carnets de serveurs. Discipline-toi, fais-moi une BD pour la semaine prochaine. Une BD en une page ou deux. J'ai dit, écoute, ça coûte pas plus cher. Donc j'ai fait ça. C'était un strip extrêmement mauvais, mal colorié, mauvais scénario, mal ancré. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand on discipline un petit peu tout ça et qu'on met ça dans des cas, c'est rigolo, parce que du coup, ça fait une histoire, c'est plus sympa qu'un truc brouillon. Et de là, j'ai commencé à faire 2, 3, 4, 5 BD. Et au bout de 6 mois, je travaillais énormément, j'évoluais très vite. Et je me suis rendu compte, à l'époque, j'habitais en Bretagne. Je ne suis pas natif de Bretagne, mais j'y suis allé pour des raisons familiales. Je menais une vie un petit peu dissolue. Et je me suis dit, tu peux pas apprendre correctement ton métier en menant la vie de bohème, pour faire simple. Et donc, je suis revenu, dans le village où je suis né, où j'habite encore. Et je me suis mis là à tout couper, à faire que du dessin pendant des 15, 18, 20 heures par jour, parce que j'étais très jeune à l'époque, donc on a beaucoup d'énergie à cet âge-là. Et ça a dû durer 2-3 ans, le temps que je me perfectionne. Et ensuite, j'ai trouvé un éditeur, dans le journal de Zélium, qui existe encore d'ailleurs, qui est une espèce de sous Charlie Hebdo. J'ai fait mes armes là-dedans dans le dessin de presse.
Tu as commencé par le dessin de presse en publié, je veux dire.
J'ai commencé en publié par le dessin de presse. J'ai aussi publié brièvement dans Le Psychopathe. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est quoi Le Psychopathe ?
Psychopathe, qui existe encore d'ailleurs, c'est... Alors, si je ne vous dis pas de conneries, c'est le frère d'Edika.
Karali, oui.
Karali, absolument. Voilà, cherchez le mot, Karali. Qui a une fille d'ailleurs aussi qui dessine. J'ai fait quelques BD là-dedans. Bonhomme à l'an, ça marchouillait un petit peu. Je me faisais un petit peu le cuir. Et ensuite, j'ai des copains qui m'ont dit « Vas-y, mets-toi sur les réseaux sociaux. » Moi, à l'époque, j'avais juste Internet, mais je ne savais même pas ce que c'était Facebook, qui était à l'époque surpuissant. Hein. Vraiment, Facebook, c'est le maximum. Ouais. Il n'y avait que ça. Et très, très vite, là, ça c'est monté directement. C'est-à-dire qu'en même pas 6 mois, j'avais 50 000 abonnés sur ma page.
Dessinez, vous prenez en photo et vous postez, vous publiez sur Facebook.
C'est ça, et on commence
ça a décollé d'un coup.
Très, très vite, on a commencé par des 50 likes, des 200 likes.
Et vous dessinez quoi, là, sur Facebook? Vous publiez quoi?
Tout ce qui me passait par la tête, c'était pas particulièrement politique. Enfin, tout est politique, mais c'était pas, on va dire, engagé comme ça peut l'être aujourd'hui. C'était plutôt, alors je voudrais pas me comparer parce que ce serait un petit peu présomptueux, mais dans l'esprit fluglacial des grandes années, quoi. C'est-à-dire du noir et blanc, très satirique, très violent. J'avais un style graphique très brutal à l'époque. C'est un peu plus fin aujourd'hui. Encore heureux. Et voilà, donc ça a marché pendant 2-3 ans, je commençais vraiment à avoir une certaine importance, et les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, j'ai commencé à être l'objet de quelques attaques, d'abord de la part des féministes. Moi, comme j'étais d'un naturel un peu sanguin à l'époque, pareil, ça s'est calmé. Quand on m'attaque, forcément je réagis encore pire pour en faire des tonnes.
Et vous réagissiez en dessin?
Toujours en dessin, oui, en dessin, en texte, peu importe. Mais en tout cas, je remettais toujours une pièce dans la machine, carrément une valise de cash dans la machine pour être sûr que ça reparte. Ça a duré un an ou deux à peu près. Donc c'était vraiment, enfin c'était homérique à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une semaine sans que la page de Marceau ne ferme. Hein. C'était le truc. Et je revenais, ça réouvrait, etc. Donc c'était assez rigolo.
Parce qu'à l'époque, c'était des suspensions. La page fermait complètement, il fallait recréer une page.
Suspension, des fois la page fermait, j'en créais une. Ensuite, on se battait avec des espèces d'avocats pour faire ouvrir la première. Enfin, c'est un vrai bordel. Et ensuite, j'ai Laura Magné des éditions Ring à l'époque, qui était directrice littéraire de la maison, qui m'écrit un beau jour sur mon mail en disant « Écoutez, on aime beaucoup ce que vous faites, si ça vous dit, venez travailler avec nous. »
Alors, on va revenir à ça après.
On revient à ça, ouais, ok.
Mais revenons un peu en arrière, parce que là, donc vous dessinez, vous avez un talent, on a vu comment vous, par un conseil bien vu d'un copain, vous avez travaillé vous-même, mais encore avant. La bande dessinée, qui vous a mis une bande dessinée dans les mains? C'est vos parents? C'est une bibliothèque? Comment une première bande dessinée a atterri dans vos mains?
C'était la bibliothèque de ma mère, qui était uniquement constituée de fugues glaciales. Donc on a encore d'ailleurs à la maison le deuxième album Ninika, qui est dédicat, qui est Homo sapiens conardus, je crois, avec une couverture turquoise, bon, qui est marron maintenant parce qu'elle est recouverte de poussière, etc. J'avais ça, j'avais tous les Sœurs Marie-Thérèse, dont je me sers encore quand j'ai besoin de voir comment fonctionnent certains tracés, certains noirs pour les décors. Je me sers encore de ces albums-là. J'ai évidemment tous les Gottlieb. Et donc, en gros, j'ai grandi là-dedans dans les lectures de ma mère.
D'accord. Donc, vous aviez quel âge
À partir de certainement 4 ou 5 ans, de si longtemps je me rappelle.
Vous êtes mis dans les fluides glaciales, vous piquiez les BD de la bibliothèque de votre mère et vous les lisiez. C'est venu comme ça.
Oui, c'est venu comme ça.
Et ensuite, donc ça, c'est la première fois que ça arrive dans vos mains, et puis la première fois que vous prenez un stylo et vous commencez à graffer quelque chose. C'est quoi? C'est l'amour du dessin? C'est la volonté d'écrire un récit? C'est la volonté de dire quelque chose? Qu'est-ce qui vous pousse au début à dessiner?
Quand je commence à faire ça sérieusement, vous voulez dire?
Non, même avant.
Alors avant, pour le coup, je pourrais...
Dessiner sur tous les carnets des serveurs des bistrots, c'est un besoin.
Ouais. Alors là, je pourrais même pas spécialement conscientiser. C'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est, est-ce que c'est le geste, est-ce que c'est le fait de partir d'une page blanche et de finir avec un truc. Je sais pas. En vrai, sincèrement, je sais pas. C'est naturel, quoi. Alors après, par contre, ça a été autre chose. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de revanche. Je vous parle quand je m'y suis mis sérieusement vers la vingtaine. La volonté de revanche. Il y a une part d'ego aussi, hein, parce qu'on fait. On fait pas ça que pour les autres, on fait d'abord et avant tout ça pour soi. Ça marche d'ailleurs pour la politique, hein. Celui qui veut être président, c'est pas du tout pour le bien de la France, c'est parce qu'il a envie d'avoir la lumière en pleine gueule, juste pour lui, c'est tout à fait normal. Donc oui, il y a certainement quelques blessures un petit peu enfantines, un petit peu de jeunesse, que j'ai voulu remplir avec un petit peu d'ego, petit peu de gloire, on va dire.
D'accord. Et... Donc c'est ça devient rapidement une passion parce que vous n'arrêtez pas de dessiner. Est-ce que vous avez pensé un moment reprendre un cursus de formation de dessin, une école
Non.
Ça n'a jamais traversé l'esprit ou
non.
Peut-être pas possible d'ailleurs.
Alors c'était pas possible parce que j'ai même pas le brevet des collèges donc je pouvais rentrer nulle part.
Ouais.
J'ai toutefois suivi les cours des Beaux-Arts pendant un an. Mais pas du tout les cursus classiques, hein. C'était les cours du soir un petit peu, ma mère m'avait inscrit là-bas quand j'avais 15 ans. Enfin, c'est même pas les cours du soir, c'est les cours du mercredi après-midi. Donc en gros, on arrivait, il y avait des pyramides de cubes, des draps, des machins comme ça. Bon, j'ai fait ça vite fait, mais ça m'a pas du tout plu. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est porté vers tout ce qui est académique. Je suis un peu trop sauvage pour ça. Je suis gentil, hein, mais je suis sauvage. C'est-à-dire que je fais tout à ma façon. Ce qui a un inconvénient, c'est que c'est plus long que quand on a quelqu'un qui vous guide. Parce que du coup, quand on a un problème, il faut le solutionner tout seul. Et l'avantage, c'est que du coup, on a vraiment son style à soi.
Alors justement, vous nous racontez que vous êtes enfermé pendant... longtemps pour peaufiner votre style, pour travailler, c'est comment on fait ? Parce que on est tout seul, vous êtes un vrai autodidacte, mais peaufiner, avec quel modèle, avec quel objectif, ou comment on sait qu'on se trompe, ou qu'il faut pousser aller vers plutôt ce style-là, ou adoucir ce côté-là, comment vous jugez vous-même ?
Avec un standard de base, qui est donc le standard flux glacial des années 80-90, donc du noir et blanc sauvage, on va dire du Gottlieb ou du sur Marie-Thérèse. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le visuel auquel je veux arriver, ouais. Quand j'ai cet âge-là en tout cas. Et ensuite, pour y arriver, on met les mains dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire qu'on tâtonne un petit peu, on voit comment ça fonctionne, on essaye différents types de papier, différents types de matériel. J'ai mis 10 ans à trouver mon matériel, qui est maintenant le même. Hein. J'achète les mêmes stylos en énorme quantité. Et
alors ça, c'est intéressant, parce que pour des néophytes comme nous, Marc connaît, mais nous, on ne connaît pas, on se dit, c'est un stylo, c'est un crayon, c'est un pinceau. Vous dites non, il y a le papier, et puis il y a la couleur. Alors vous, ça va être dans un noir et très ancré, quoi. C'est comme ça que je le perçois. Après, encore une fois, je suis un néophyte, j'ai pas le vocable, j'ai pas la sémantique, mais je le perçois comme ça. Comment, justement, le matériel, ça consiste en quoi ? Est-ce qu'il y a des palettes complètement différentes, un stylo, une pointe, décrivez-nous un peu cet univers qu'on connaît pas du tout.
Alors, il y a plusieurs écoles. Encore qu'aujourd'hui, je crois qu'avec les palettes graphiques, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à la poubelle. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une palette qui ressemble à une espèce d'iPad, un stylet magnétique. Et en fait, on choisit le rendu qu'on veut avoir, donc rendu pinceau, rendu feutre ou n'importe quoi. Donc, je crois que le travail manuel s'est beaucoup perdu, mais bref.
Et vous êtes toujours en manuel ?
Ah, toujours. Je ne suis pas du tout à l'aise avec les graphiques. J'ai besoin d'avoir un rapport un petit peu charnel avec, ma table à dessin. Qui est d'ailleurs la même depuis 20 ans, qui est dans un état épouvantable, mais que je veux changer pour rien.
C'est comme un bio de boucher, ça commence à creuser,
je l'ai recollé en dessous, je l'ai vissé, j'ai mis des équerres, c'est un cauchemar, mais elle est absolument géniale. Elle a au moins 50 ans, cette table à dessin. Et donc, en gros, pour revenir sur le matériel, y a des gens qui vont avoir un pinceau, donc vraiment un vrai pinceau avec un encrier. Ça, c'était vraiment les anciens qui travaillaient comme ça. Et à côté, ils ont des espèces de plumes de différentes épaisseurs. Ils vont pareil tremper dans l'encrier. Moi, j'ai essayé ça. Je suis pas à l'aise parce que ça goûte un peu partout. Donc, en gros, j'ai deux stylos. Le premier, c'est des Staedtler Pigment Liner. Donc, en gros, c'est des stylos d'architecte que j'ai découvert quand je faisais mon CAP de maçonnerie pour faire les plans des maisons, ouais. etc. Il y a plusieurs épaisseurs, 0,5 mm, 0,2, 0,3. Donc je m'en sers suivant que j'ai un œil à faire, un dialogue, peu importe. Par exemple, les dialogues, toujours en 0,3. Et à côté, j'ai un stylo pinceau de la marque Pentel, des Japonais. Donc c'est toujours très fiable avec les Japonais, de toute façon. Et donc c'est un stylo qui imite un pinceau, mais avec une réserve d'encre dedans.
D'accord.
Et donc je mets simplement la cartouche d'encre et j'ai un débit régulier. Et ça doit faire une quinzaine d'années que j'ai trouvé ce matériel-là et que j'y touche absolument plus parce que je suis allé avec ça.
Et vous dessinez avant dans où ? Comment ça marche ?
Ouais, il y a trois étapes. La première, c'est le brouillon. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai ma feuille, j'ai l'idée qui me vient à peu près, je couche ça avec des grosses formes et des trucs écrits en pattes de médecin, il n'y a que moi qui arrive à déchiffrer, mais c'est mon truc. Ensuite, j'affine, on appelle ça le crayonné, donc c'est là où vraiment ça prend forme et les détails arrivent. Et ensuite, l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est on repasse tout simplement tous les crayonnés par de l'encre de Chine. Donc avec mon fameux stylo pinceau et mes crayons, c'est de l'or.
Et le support sur les papiers, est-ce que le papier, c'est une...
Canson, 200 grammes.
D'accord.
Juste celui-là, ouais. J'ai essayé pareil les autres. Il y en a qui bavent, il y en a qui sont trop épais, il y en a qui sont... Ça va pas, c'est vraiment celui-là. Et pareil, ça fait 15 ans que mes commandes Amazon sont absolument les mêmes...
D'accord, donc Amazon est content, c'est votre panier automatiquement reconseillé en algorithme.
Tout à fait.
Et alors, pas de couleur, toujours en noir et blanc. La couleur, ça...
J'ai eu fait de la couleur.
Vous avez fait un peu de couleur ?
Ouais, j'en ai même fait pas mal dans le Zélium notamment.
Ouais.
Alors le problème, c'est que moi je faisais... Enfin, je suis un assez bon coloriste en vrai, mais sur des originaux. Parce que je vous explique, c'est que quand l'original en couleur, il est très très joli... Les couleurs sont éclatantes, les nuances sont là où vous voulez qu'elles soient. Ensuite, quand ça passe au scan, ça perd en intensité. Et du coup, il faut rehausser avec des trucs, Photoshop, etc. Et après, là, je suis un petit peu perdu parce que du coup, on n'a plus du tout le même visuel que l'original. Donc, j'ai arrêté de faire de la couleur. Aussi parce que le noir et blanc est un défi permanent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que s'il y a un endroit... S'il y a un vide, il faut soit le remplir, soit faire en sorte qu'il est là pour une raison particulière. Mais on ne peut pas le remplir par un aplat de couleurs ou quelque chose comme ça. De même que les expressions, voilà, s'il y a quelqu'un qui a l'air un peu alcoolisé, il faut qu'on arrive à faire comprendre avec des détails et une expression qu'il est bourré, pas juste le mettre en rouge. Donc ça, c'est le... Puis le noir et blanc, moi je trouve ça beau en plus.
Alors, vous disiez, vous faites un brouillon au début. Alors, il y a une bande dessinée, il y a... des dessins, des dialogues, mais c'est pas une pleine page de dessin, même si ça peut l'être de temps en temps, mais en tout cas, il y a soit des pages qui succèdent, soit sur une même page, des cases qui succèdent. Donc il y a aussi un travail de perspective, je suppose, il y a un travail de scénario graphique. Comment on construit ça ? Parce que dessiner, c'est quelque chose, trouver la bonne bulle, la bonne réplique, c'est quelque chose, mais là, on est sur un travail et d'architecte, et de designer, et de, alors, je sais pas comment, de scénariste, mais script, c'est-à-dire faut que ça se lit comme un...
De monteur, en
plus. De monteur, voilà, Marc, merci. Donc comment... Parce que ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quoi, peut-être que j'y ai d'ailleurs, mais comment on travaille ça, comment on pense ça ? Et à quel moment ça intervient, surtout ?
Ouais. C'est d'abord et avant tout du bon sens, c'est-à-dire que, une fois de plus, j'ai pas de formation académique, donc je sais pas comment on fait concrètement pour faire une histoire qui se tient. En tout cas, je sais le faire. Et non, c'est du bon sens, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon brouillon à peu près, mon crayonné, tout ça, je relis, et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si je me dis, tiens, là, ça rame un peu ou c'est pas clair, ça veut dire que c'est pas clair et qu'il faut que je refasse.
Et se dire quoi, pas clair ? Ou par exemple, se dire quoi quand il y a un vide ? Parce que vous nous avez dit, le noir et blanc, on ne peut pas tricher, s'il y a un vide, il faut trouver quelque chose. Mais bon, je dis là, il y a un trou.
Ouais, mais parce que je le maîtrise, ce trou-là, ouais. Parce qu'il est là, à un endroit où j'ai décidé qu'il soit... Certainement qu'il est consécutif à un dialogue un peu gênant ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour signifier qu'il y a un blanc qui passe. Quoi. Et votre question d'avant ?
Excusez-moi. C'est justement comment on construit le rythme, comment on construit un script, comment on monte, comme disait Marc, comme un montage, soit une page, soit quand c'est une BD, 40, 50 pages. Comment c'est quoi l'étape avant le... Il y a le dessin, le brouillon, mais ça intervient quand ce montage ?
Tout au long, c'est-à-dire que je relis en permanence et je me demande si c'est clair ou si c'est pas clair.
Donc en fait, vous faites case par case et vous voyez si ça succède bien, ça succède pas,
c'est ça.
Bon, il y a un problème.
On appelle ça le découpage.
C'est le découpage.
En BD. Et moi, d'une manière générale dans la vie, je suis quelqu'un d'assez synthétique, c'est-à-dire que j'aime pas quand il y a quand il y a de la perte de temps ou quelque chose qui n'est pas limpide, qui n'est pas clair. Alors, ça ne veut pas dire que je suis invivable, hein, mais ça veut dire qu'avec moi, généralement, il n'y a pas de zone d'ombre. Tout est assez clair. Quand vous me posez une question, j'y réponds clairement. Et en gros, je n'ai pas envie que quelqu'un qui achète une de mes BD s'enlise un petit peu, se dise « Attends, il va où là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » J'ai envie que ce soit tac, tac, tac. Et encore, là, je suis beaucoup plus subtil que j'ai pu l'être avant, parce que là je tiens sur 70 pages. Hein. Ouais. Avant, on
et
était vraiment...
Ça tient très bien sur 70 pages.
Bah, je vous remercie.
Je vous le confirme. Marc Aubrigon.
Oui, on sent que parmi vos influences, il y en a eu qui est immense, c'est celle de Marcel Gottlieb. Alors pour rappel, Marcel Gottlieb, c'est ce dessinateur qui a été découvert dans Pilote par Goscinny et qui a un trait hyper technique. Et est-ce que c'est cette influence qui vous a tiré vers le haut, j'imagine, depuis vos débuts, mais qui vous a aussi peut-être un peu fait d'ombre, vu que c'est vraiment un maître de la technique? Comment vous avez géré cette influence? On sent que vous l'avez dépassé récemment, je trouve, mais pendant très longtemps, c'était vraiment un peu le but à atteindre, j'ai l'impression.
Alors, c'était évidemment, bien sûr, le but à atteindre. Que je l'ai dépassé, je pense que la question se pose même pas, puisqu'on n'est pas sur le même genre de segment. Enfin, en tout cas, j'ai évolué vers quelque chose d'autre. Et de toute façon, il est tellement, c'est tellement un géant que pour moi, il est indépassable. Parce que l'époque n'était pas la même. Il a cassé tellement de codes Gottlieb que pour moi, il est indépassable en tout cas. Et évidemment, mais ça m'a pas fait d'ombre à moi-même parce que moi, je sais que je ne fais pas du Gottlieb. Faut être un idiot pour dire que je fais du sous Gottlieb ou que je copie Gottlieb, mais tout le monde dit ça. Et c'est plus ça qui m'a un peu embêté à une époque, parce que moi, je voulais pas copier, c'est juste que j'étais tellement fan qu'effectivement, dans les premières années, surtout quand je travaillais sur des formats courts, des strips de trois cases ou n'importe quoi, il y avait beaucoup de violence. Ça, c'est Gottlieb aimait beaucoup le gestuel, les points, les grosses onomatopées, les trucs comme ça. Évidemment que ça ressemblait à, oui, pour le coup, à une époque, une forme de sous-Gottlieb. Ou en tout cas, un travail de fanboy de Gottlieb, quoi. Mais je suis très à l'aise avec le fait d'avoir un style qui s'en rapproche, une inspiration, et j'ai pas à rougir, parce que je ne copie pas Gottlieb.
Mais c'est ça qui...
On a tous un maître duquel on s'inspire, c'est logique, c'est normal.
Et c'est peut-être là où c'est le plus compliqué dans la bande dessinée, parce que évidemment que personne ne part d'une feuille blanche, mais dans les autres arts, à savoir la littérature, le cinéma et la musique, une BD, c'est figé. On voit un dessin dans la littérature pour dire il copie quoi, une ligne, un paragraphe. Au cinéma, il y a du mouvement. Dans la musique, il y a plein de choses qui rentrent en percussion. Donc c'est vrai que l'influence qui est fondamentale, parce qu'on n'est pas, on pense pas être comme les gauchistes, qu'on s'auto-engendre, donc qu'on s'auto-crée. On vient forcément d'une influence ou d'influence. C'est peut-être encore beaucoup plus voyant sur une bande dessinée que dans les autres arts.
Tout de suite.
Et donc, c'est peut-être. Et quand Marc disait vous avez dépassé Gottlieb, je pense que tu voulais dire vous êtes sorti de l'influence de Gottlieb.
Ah oui, pardon, excusez-moi. J'étais dans ce sens-là. J'ai pas du tout compris.
Ce que j'ai compris.
Tout à fait.
Voilà. J'avais pas compris, excusez-moi, désolé.
Alors revenons à votre...
Je fais juste une parenthèse. Allez-y. Si je pouvais quand même avoir un point commun avec Gottlieb, c'est que je crois qu'il a eu le même parcours que moi, enfin le même genre de parcours, à savoir totalement autodidacte, et notamment la coccinelle. Ça, c'est un dessin. Vous connaissez la coccinelle de Gottlieb?
Oui.
La petite coccinelle qui met un peu partout, là. Ça, il l'a avoué lui-même, c'est parce qu'il avait des lacunes et qu'il savait pas faire les décors. Ou très mal. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs, pareil, j'ai horreur de les faire. J'aime pas du tout faire les décors. Je les fais parce qu'il faut bien des fois qu'il y en ait, mais j'aime pas faire ça. Et lui, pour pallier à cette faiblesse qu'il avait, à savoir de se retrouver justement avec des vides, mais qu'il avait pas choisi de mettre ici, et ben, il a mis cette petite coccinelle, justement, qui fait des conneries, qui remplit des vides, et en plus, qui est très marrante. Et donc, tout ça pour dire que c'est ça qui est bien quand on a un parcours autodidacte et qu'on se débrouille tout seul, c'est qu'on est obligé de trouver des astuces qui forcément sortent du lot puisqu'on les a trouvés soi-même. C'est un truc de créateur, quoi.
Rémi,
vous le disiez tout à l'heure dans le questionnaire de Proust, il y a une dimension assez politique aussi dans votre dessin et dans vos BD. À quel moment c'est intervenu ça dans votre parcours? Parce qu'après tout, vous auriez pu faire des récits et dessiner, faire des histoires imaginaires, quoi. Pourquoi à quel moment cette dimension politique est intervenue?
Alors, elle m'est tombée dessus par hasard. C'était au moment des premières attaques, j'en parlais tout à l'heure, avec les féministes sur Facebook, dans les années 2015-2016. J'ai découvert ce qu'étaient les gauchistes à cette occasion-là. Je me suis dit, c'est quand même incroyable cette affaire-là, parce que ça. Et j'ai forcément pris toutes les mauvaises décisions à l'époque, à savoir tenter de discuter avec eux, penser que en étant gentil et constructif, vu que c'est la démocratie, ils m'écouteraient, et en fait, pas du tout. Donc, j'ai vraiment fait mon apprentissage à partir de 2015-2016 politique. Et en gros, bah, tout naturellement, quand on attaque la gauche, on a le soutien de la droite. Et voilà, c'est comme ça que je me suis rapproché de la droite. Mais même si je pense qu'à la base, même si on ne parle pas d'être encarté ou que ce soit, j'avais certainement un dessin de droite. Je devais avoir un dessin de droite quelque part. Quoi.
C'est quoi un dessin de droite ?
C'est un dessin qui est clair. Qui est clair et qui est compréhensible. Pareil pour le découpage. Un découpage de droite, c'est quelque chose qui va à l'essentiel et qui ne perd pas de temps. Voilà, qui n'est pas là pour, qui est pas là pour divaguer, qui n'est pas là pour... voilà. J'ai pu lire à droite à gauche quelques BD un petit peu récentes. Je ne comprends pas trop, enfin, je ne comprends pas où ça va. Quoi. Je trouve que ça traîne, je trouve que c'est mou, il n'y a pas d'énergie, ce n'est pas vital. Certainement qu'il y a des très très bonnes BD, hein. Récentes, ce n'est pas le problème. Mais, bon, une BD de droite, pour moi, c'est une BD synthétique. Et on ne perd pas de temps, c'est clair.
Il est 18h, chers auditeurs, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat. Et donc nous recevons Marceau, qui publie aux éditions Magnus, d'après une idée de Laurent Oberton, Objectif 2027, le candidat imprévu. Nous allons en parler, mais juste le temps d'une petite pause, et on se retrouve tout de suite après.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Il est 18h01, vous êtes dans Restons Courtois, l'émission débat de Radio Courtoisie. Donc, nous sommes avec Marceau qui publie chez Magnus, pardon, Laura Manier. En plus, comme j'ai découvert que c'est une snipeuse qui visait et qui ratait pas, je vais avoir peur maintenant. Donc, Objectif 2027, le candidat imprévu d'après une idée de Laurent Oberton est donc croqué, écrit par Marceau. Mais vous savez qu'à 18h, c'est aussi l'heure de la chronique de Rémi Carlu et qui va nous parler d'une actu dont personne n'a parlé jusqu'à présent, les municipales.
Et oui, cher Arthur, en cet entre-deux tours des élections municipales, l'heure est à la tambouille entre les différents partis. Qui se maintient en fusionnant avec qui, pour gagner contre qui, grâce au retrait de qui ? La démocratie, le régime le plus naturel et le plus rationnel, qu'il disait, un peuple éclairé par la libre discussion, se forge un système d'opinion tendant vers la vérité et investissent par les urnes les représentants adéquats pour conduire les politiques que ces opinions supposent. Mais le problème de la démocratie, c'est qu'elle est un pur idéal qui flotte au-dessus des réalités telluriques du politique. C'est un régime fait pour un peuple de Dieu, disait Rousseau, et effectivement, on a beaucoup pointé la bêtise du peuple votant, bêtise encore illustrée par les scores de la France insoumise. Mais la démocratie est viciée dès ses conditions techniques de mise en œuvre, quel que soit par ailleurs le peuple et les candidats. Cet entre-détour le démontre. Pour un même état de l'opinion publique, le résultat final dépend de la manière dont le choix démocratique est mis en œuvre. Un tour ou deux tours, une uninominale ou liste, majoritaire ou proportionnelle, qualification à 5, 10 ou 15%. Le mode de scrutin, qui peut sembler une donnée technique et triviale, est absolument essentiel. En témoignent les enjeux autour de la réforme à Paris, Marseille et Lyon, ou l'importance de la composition des seconds tours, duel, triangulaire ou quadrangulaire, pour déterminer les vainqueurs. En fait, et c'est le vice caché de la démocratie, l'identité du vainqueur dépend au moins autant de la manière d'encoder le choix de l'opinion que des choix de l'opinion proprement dit. Vous m'accorderez qu'en matière de rationalité, on a vu mieux.
Alors, on va quand même essayer de tirer quelques leçons rationnelles du premier tour. Alors, quel enseignement pour le camp macroniste ?
Eh bien, dimanche soir, tous les partis politiques, c'était frappant, se sont déclarés vainqueurs du scrutin, sauf les partis du centre. La majorité présidentielle a été laminée et n'a souvent vécu dans ces élections qu'au travers d'alliances avec LR. Il se dit d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ne se serait pas impliqué personnellement dans la campagne et aurait espéré quelques cuisantes défaites dans le but de tuer Attal et Philippe, ses poulains d'hier. Bref, c'est la politique de la terre brûlée. Il ne restera décidément rien du macronisme après Macron. Tout indique que le clivage droite-gauche se réinstalle. Il faut noter toutefois une évolution salutaire du discours centriste sur le barrage républicain. Par rapport aux dernières législatives, la stratégie du centre a évolué. De l'alliance systématique avec la gauche, voire l'extrême-gauche contre le Rassemblement national, le centre est passé à la politique du nini, jadis cher à Nicolas Sarkozy et aux Républicains. C'est la conséquence du 7 octobre puis de l'affaire Quentin. Dans le discours public, dans le débat public, le centre... Et pour le centre, LFI est devenu un parti au moins aussi dangereux que le RN, et parions même que dans leurs esprits, LFI l'est désormais davantage. Voilà un enseignement très important en vue de la prochaine présidentielle, notamment dans l'optique d'un second tour opposant le RN à LFI.
Alors on dit que la gauche est la grande gagnante du premier tour. Est-ce que c'est le cas ?
Eh bien, il y a plusieurs forces à gauche. Pour ce qui concerne les Verts, ils refluent après la vague de 2020 parce que les partis camarades ont fait de l'écologie une pierre angulaire de leur propre discours. Restent donc deux forces à gauche, la France Insoumise et le Parti Socialiste. La première obtient une poussée nette dans certaines villes comme Toulouse, et sans surprise dans les territoires grands remplacés de la Nouvelle-France, dixit. Qui s'étonnera que les sbires de Mélenchon l'aient emporté à Roubaix ou à Saint-Denis, à Molenbeek ou à Kaboul? Les territoires perdus de la République passent donc pour de bon sous bannière insoumise, l'intelligence avec l'ennemi crève maintenant les yeux. Quant au Parti Socialiste, il résiste mieux que prévu et pourrait rafler la quasi-totalité des grandes villes françaises, preuve s'il le fallait encore que tout sépare désormais une France des villes, celle des élites progressistes, et une France des champs, soucieuse de la pérennité de son mode de vie. Le grand enjeu à gauche, bien sûr, c'était les possibles accords entre le PS et LFI. Dimanche soir, on a noté une évolution, là aussi, du discours des instances parisiennes de la social-démocratie, Faure, Hollande, Glucksmann, Drey. Il n'y aurait, promettait-il, aucun accord national avec LFI. Cette fois-ci, c'était certain, c'en était bien fini. Là encore, le 7 octobre et l'affaire Quentin ont fait évoluer les choses. Même en étant membre du PS, on ne pouvait plus, sur les plateaux médiatiques, se dire aussi facilement qu'avant, prêt à s'allier avec LFI. Hélas, hélas, la réalité du terrain a vite repris le dessus, et hormis Paris, Marseille et Strasbourg, des accords ont été passés à peu près partout. Le PS avait l'occasion historique de gagner seul en misant sur le vote utile et de redevenir ainsi la première force de gauche, mais ils ont préféré le déshonneur des accords avec les Insoumis, signé avec le sang frais de Quentin. Qu'importe leur propre parjure ou l'antisémitisme de ses nouveaux alliés, le seul horizon politique de la gauche, c'est bien la liquidation des entraves au progrès, donc l'éradication de la droite, quels que soient les moyens. Nous le disions au moment de l'affaire Quentin, ce n'est pas seulement LFI, mais bien toute la gauche qui est criminelle en puissance. Reste à voir ce dimanche dans quelle mesure leurs électeurs suivront ces accords dits de la honte.
Et la droite doit-elle se satisfaire de ces résultats?
Bien la droite, que l'on sait majoritaire à l'échelle nationale, le sentir effectivement pas si mal. D'un côté, LR, véritable parti de cadre selon la terminologie de Maurice Duverger, résiste très bien dans les villes moyennes grâce à son maillage notabiliaire. De l'autre côté, l'ERN progresse un peu partout, mais insuffisamment, faute d'une stratégie d'ancrage sur le temps long. Ces édiles, ont en tout cas été réélus triomphalement, et le parti pourrait même rafler quelques villes au centre droit comme Toulon et Nice. Mais l'éternelle difficulté pour le RN, et on le verra dimanche prochain, demeure l'obtention des 50 plus 1 au second tour. On note toutefois, à droite aussi, une inflexion dans la tectonique des plaques. Du nini, le discours de LR a évolué vers le tout sauf LFI. Dès dimanche, le RN, qui aime tant répéter qu'il n'est pas de droite, en appelait aux forces de droite sincères pour faire battre partout la gauche. Bardella reproche à Retailleau de ne pas avoir retiré la candidature de Martine Vassal à Marseille, en réponse de quoi Retailleau, plutôt que d'affirmer la main sur le cœur que LR ne travaillera jamais à la victoire du RN, reproche en sens inverse au RN de ne pas se retirer à Gap, Fougères ou Alençon. Alors que LR s'écharpe sur le canissoir, Retailleau refuse pour sa part d'appeler à voter Estrosi contre Ciotti. À Paris, Dati a félicité Knafo pour sa campagne et salué la noblesse de son retrait. Bref, malgré les sorties incendiaires de tel ou tel, les droites semblent commencer à comprendre qu'elles sont dans le même camp et qu'elles partagent un ennemi commun clairement identifié.
Et ces droites peuvent-elles travailler ensemble demain?
Eh bien, elles le doivent et elles le feront nécessairement un jour ou l'autre. C'est l'enseignement principal de ces élections. La droite gagnera dès que ses deux jambes, au lieu de chercher à se casser l'une l'autre, marcheront ensemble au pas. Le RN, parti de masse, toujours au sens de Duverger, reste inéluctablement exclu des grandes métropoles. Rendez-vous compte, le premier parti de France ne réalise qu'1,5% dans la capitale. Du reste, le RN qui réunit à percer dans les grandes villes est un RN d'origine LR, capable de s'adresser à la bourgeoisie conservatrice qui y vit, c'est Ciotti à Nice, Alizio à Marseille, auquel on pourrait ajouter la belle percée de Knafo à Paris. Pour accéder au pouvoir, le RN aura donc besoin d'une partie de LR reconquête, et réciproquement. C'est le sens de l'histoire, et LR a de ce point de vue réalisé une grave erreur en concluant un accord national avec Horizon, au lieu d'accepter, progressivement, de rentrer dans le giron RN. Le courage n'est certes pas la vertu principale des politiques, mais un homme a su en faire preuve, c'est Éric Ciotti, qui en récoltera dimanche les fruits, faisant au passage de Nice le laboratoire d'une droite qui gagne. Une droite plurielle, capable de faire entendre, à partir d'une symphonie commune, des sonorités diverses, à travers des partis et organisations partenaires. À l'union des droites, terme finalement très jacobin, qui ne dit pas combien les offres politiques de la droite peuvent être diverses tant qu'elles restent complémentaires, préférons la fédération des droites. D'ici 2027, chaque membre de LR devra choisir s'il en est ou pas, s'il veut gagner comme Ciotti ou disparaître avec Estrosi.
Merci Rémi Carlu. Marceau, c'est plus facile ou plus amusant de dessiner Ciotti ou Estrosi?
Les deux sont intéressants, hein, très reconnaissables.
Ouais.
Donc je dirais que les deux sont intéressants.
Bon, en tout cas, si on parle d'élection, bah, je vous invite à acheter Objectif 2027, le candidat a prévu. Alors, c'est à commander uniquement sur le site de Magnus. Je suppose que c'est www.magnus.fr.
Édition Magnus.fr.
Édition Magnus.fr avec un S à édition.
Oui.
Voilà, donc c'est, vous ne le trouvez pas à la FNAC, vous ne le trouvez pas à la Procure, évidemment. Peut-être chez JBR et encore. Mais en tout cas, voilà, vous l'achetez directement sur le site des éditions Magnus. Et vraiment, c'est une excellente BD. Très drôle, vraiment très drôle. Et ça fait du bien de rire. Et surtout de rire avec autant de tronçonnage de tabous et de totems. Donc, achetez-le. Revenons à vous, Marceau. Donc, on s'est arrêté. Laura Magnier, qui est donc directrice littéraire chez Ring, vous repère et vous contacte.
Oui.
Et donc, je suppose qu'elle me demande de venir rejoindre les éditions Ring.
Absolument.
Et dans quel objectif ? Faire une bande dessinée, de faire un livre, de...
De faire une collection BD chez Ring, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Moi, ça tombait très bien parce que les attaques incessantes sur la page commençaient vraiment à fatiguer la page, et même à me fatiguer moi, parce que du coup, mon seul gagne-pain, c'était Facebook. C'était à travers ça que je vendais mes albums. Donc, quand les pages commençaient vraiment...
Parce que vous auto-éditiez.
Vous auto-éditiez avant.
Vous auto-éditiez et vous vendiez directement via Facebook.
Absolument. Et du coup, là, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, d'ailleurs, que ce soit en investissement ou dans tout autre domaine. Parce que du coup, quand ça casse, on n'a plus rien, quoi. Et donc, moi, vraiment, mon revenu menaçait de disparaître. D'ailleurs, ça a été le cas après, 3 semaines après ma signature chez Ring, quasiment, la page Facebook a fermé pendant au moins 1 an. Donc, j'avais bien fait de signer. Et donc, je signe chez Ring, on commence à sortir quelques BD, déjà des rééditions des BD que j'avais faites moi, et puis des nouvelles. Donc, c'est là qu'est née la série des Brum, notamment. Brum 1, 2, 3, 4, 5. Qui est une onomatopée que j'ai créée et j'ai donné ce nom à mes albums. Tout se passe bien. Puis au bout d'un moment, ça se passe quand même plus trop bien parce que le patron des éditions Ring était un petit peu spécial. Particulier.
Pour dire les choses gentiment.
Et donc, d'un commun accord avec Laura Magnier, Laurent Berton et Papacito à l'époque, on s'est dit, vas-y, on s'en va et on monte notre boîte d'édition. Ce qu'on a fait. Alors je dis « on ». C'est Laura Magnier et Laurent Berton qui sont les patrons. Hein.
D'accord.
Mais je dis on.
Donc les éditions Magnus.
Les éditions Magnus.
Où est publié donc Laurent Berton.
Tout à fait.
Où était publié Papacito.
Il est encore. Et
il est encore.
Ouais.
J'ai plus, il me semblait qu'il est parti.
Il est parti,
il est parti
de La Furia, mais il est encore
de
les éditions Magnus.
Et donc le magazine La Furia, oui, la revue La Furia et donc vos albums.
Tout à fait. Voilà.
Tout est concentré chez Magnus. Donc vous allez sur le site, vous achetez le dernier album et puis vous achetez le reste également. Donc continuons. Magnus, donc là, l'aventure, donc vous créez une maison d'édition en partant de... Il fallait repartir à zéro parce que je suppose que quand on quitte une maison d'édition, vous ne pouvez pas partir avec ce que vous aviez déjà sur place.
Si.
Ah, donc vous êtes parti avec le stock que vous aviez déjà créé.
Vous parlez du stock physique.
Non, des droits.
Ah si, mais ça on s'est arrangé avec... On a mis quelques conditions. Et donc, on a récupéré nos droits, ce qui fait qu'on a pu... encore heureux, hein, c'est nous qui avons fait les trucs, donc c'est quand même logique, voilà.
Vous savez, parfois, il y a des choses bizarres.
Non, mais quand on veut s'arranger, on s'arrange toujours. Et donc, on est parti avec ça, et on a réédité tout le catalogue qu'on avait fait à l'époque chez Ring, plus les nouveautés entre-temps, et ça s'est même élargi très loin, parce qu'il y a eu tout un tas de livres absolument épiques chez Magnus, je pense notamment à Transmania, Marguerite Stern et Doramuto, ça fait pas mal scandale, ça.
Monsieur Emmanuel Grégoire, qui candidate à la mairie de Paris, était en première ligne pour interdire les affiches. Donc, si vous votez à Paris, bah réfléchissez.
Voilà. Mais voilà, donc non, très belle aventure que les éditions Magnus.
Comment vous pouvez définir les éditions Magnus ? Est-ce qu'il y a une ligne ? Est-ce qu'il y a un objectif ? Est-ce qu'il y a un plan de développement ?
J'allais dire c'est une maison de droite, mais même pas spécialement, parce qu'en fait, on arrive à agglomérer à nous des gens qui viennent d'horizons différents. Je pense à Marguerite Stern, qui était quand même une ancienne fémène. Donc, non, c'est une maison d'édition, je ne saurais pas comment vous dire, qui édite des choses intéressantes d'où qu'elles viennent.
Qui est, en tout cas, qui n'a pas peur de tronçonner quelques tabous.
Ah non, on a peur de rien.
Qui a une grande liberté de ton. Alors, parfois, vous le payez cher, parce que La Furia, vous êtes fait... supprimer votre numéro CPPAP. Le numéro CPPAP, c'est une commission paritaire qui permet à des magazines d'être distribués dans les kiosques. En fait, qui contraint les kiosques et les relais à les distribuer. Puis en plus, ça permet d'avoir quelques avantages fiscaux. Donc, on vous a supprimé, quoi. La Furia s'est vue retirer ce numéro d'agrément. Donc, ça permet d'être distribué, mais ça ne contraint pas les distributeurs à vous distribuer.
Absolument. Donc, et on est encore en procès avec eux. On a fait tout un foin il y a quelques mois quand ça nous est arrivé. Ça nous a permis de faire une campagne de réabonnement assez massive. Mais oui, on a quelques problèmes. Après, il faut aussi se dire qu'on est à notre place avec les inconvénients que ça apporte. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à rentrer dans l'art du système et ensuite à se plaindre qu'ils se défendent. C'est logique, on est à notre place. Simplement, on fait face et on en informe les gens quand il y a des revers qui sont un peu plus violents que d'autres.
Bien sûr.
Mais non, c'est tout à fait... on est à notre place, c'est tout à fait normal.
Et comment Marceau, l'autodidacte, a accepté de travailler avec une éditrice? Parce que je suppose que le rôle d'une éditrice, c'est aussi de cadrer, de corriger, de dire non, ça ne va pas dans ce sens-là, il faut aller dans l'autre sens. C'est pas... Quand vous avez bossé quelques années autodidacte et ensuite bossé pour une maison d'édition et avec une éditrice, ou un éditeur d'ailleurs, c'est quand même un travail différent, non?
Non, c'est assez simple. D'une part, elle est venue me chercher, ça veut dire qu'elle aime bien mon travail, Laura Magnier. Donc à partir de là, elle n'a pas grand-chose à en redire puisqu'elle aime mon univers et qu'elle aime mon travail. Et ensuite, elle m'a toujours laissé une liberté d'expression totale. C'est-à-dire qu'elle a pu... Par exemple, sur Objectif 2027, au début, bon, c'est vrai que quand on annonce le thème, c'est pas qu'il y a des réserves, c'est qu'il y a une petite surprise. C'est-à-dire que, ah bon, t'es sûr qu'on parle là-dessus, voilà, il n'y a pas de... Bon. Et en fait, non, elle a jamais rien caverdé, elle me laisse totalement libre, il n'y a aucun problème là-dessus.
Alors justement, parlons-en. Objectif 2027.
Je fais une parenthèse, mais c'est quand même la seule qui a le droit de me faire des remarques. Ça s'arrête là.
Non, mais elle vous en fait quand même. Elle vire à l'éditrice.
Elle peut m'en faire très, très ponctuellement, mais en tout cas, c'est la seule qui a le droit de m'en faire.
Je vous rappelle que c'est l'équivalent d'un sniper.
Absolument,
avec une lunette.
Tout à fait.
Faire gaffe quand même.
Et un silencieux.
Voilà, les remarques, ça fuse et c'est précis. Alors, donc, Objectif 2027. Donc, je vois d'après une idée de Laurent Overton.
Oui.
Donc, c'est Laurent qui est venu vous voir en disant « J'ai une idée, on va faire une BD et Adolf Hitler va être candidat à la présidentielle 2027 en France. »
Alors, ça n'a pas été aussi rapide, mais certainement, ça n'a pas dû beaucoup traîner quand même. Non, on a dû boire un coup un après-midi sternement. Moi, je devais arriver à la fin d'une BD autre, soit avec Papacito, parce que j'en ai fait deux ou trois d'affilée, soit une BD personnelle, peu importe. On a dû se dire, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire comme saloperie maximum? Il y a deux verres de vin qui ont dû passer par là, et puis on s'est dit, bah, on va faire revenir Hitler en 2027, et voilà où on en est.
Alors,
je me retrouve chez Radio Courtoisie.
Alors, je précise... C'est une BD, et donc c'est pas un programme politique, et c'est une BD humoristique, hein, pour ceux des censeurs qui voudraient écouter. Voilà, c'est comme, replongez-vous dans les Harakiri, vous verrez ce que c'est. Donc, et alors, là il y a l'idée de départ, mais ensuite il faut bosser un scénario. Mm-hmm. Et là, comment vous avez bossé avec Laurent? Vous avez bossé tout seul? Vous avez bossé avec Laurent, Laura Magnier? Comment ça passe?
On
écrit un script comme ça?
On a bossé... On a bossé Laurent et moi au fur et à mesure, c'est-à-dire que moi, c'est quand même moi qui ai défriché beaucoup, et je lui soumettais quelques idées, quelques développements à droite à gauche. Il a fait quelques dialogues quand même, il y a quelques trucs à droite à gauche, mais disons que le scénario et le découpage, c'est plutôt moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a gentiment accepté de dire que c'était sur une idée, et de pas reprendre les lauriers à lui en disant qu'il avait fait tout sauf le dessin, quoi. Mais on a quand même travaillé, ça a duré un an, et pendant un an, il a évidemment supervisé, qu'on a discuté. Il y a eu quelques accroches sur les scénarios, on en parlait tout à l'heure. Quand je vous disais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Dans la première version, il y avait 3 ou 4 pages, notamment de la fin, qui n'allaient pas. C'est-à-dire que pendant 60 pages, ça va nickel, et ces 3 pages-là, on sent que le régime y baisse, il y a un truc qui a un peu de travers, ça ne marche pas, quoi. Et là, on a discuté collégialement, Laurent, Laura et moi. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la chute.
Alors, la chute qu'on ne révélera pas, évidemment. Ça, il faut l'acheter. Donc, je rappelle sur le site des éditions Magnus. Alors, donc, Hitler qui revient, on peut le raconter, c'est le début. Parce que le diable en a ras-le-bol, parce qu'il lui vole la vedette. Forcément, dès qu'il y a un type qui débarque en enfer, il prend un selfie avec Hitler. Donc, il est un peu jaloux. Donc, conciliabule avec le dieu des chrétiens, le dieu des juifs, et puis le dieu des musulmans, qui est censuré, évidemment. Comment on fait pour se débarrasser d'Hitler? On le renvoie sur Terre, il débarque en France, et là, l'aventure...
Précisément à Paris, parce qu'on juge que c'est une punition pour lui, parce que c'est très...
Imaginez pourquoi, le voilà. Paris d'Hidalgo, plus. Quoi, bah, plus, le Paris d'Hidalgo, en fait. Donc voilà le départ de l'aventure. Mais, bon, si vous choisissez une campagne politique, c'est pas pour rien. S'il y a des... On y croise Mélenchon, on y croise Zemmour, on y croise Macron, on y croise beaucoup de RN, des journalistes de quotidien. Derrière, il y a quand même aussi une volonté, pas de dire qu'est-ce qu'on peut faire de pire, mais il y a quand même aussi derrière la satire, un message à faire passer. C'est on va arrêter deux secondes avec les conneries. À force de fasciser tout le monde, bah, je vais vous montrer ce que c'est que la fascisation. Je vous raconte une bulle qui est très drôle. C'est, alors je sais plus si c'est Hitler qui va chez Élise Lucet ou chez Quotidien. Il lui demande est-ce que vous êtes antisémite. Il répond bah oui. Et là, il y a un blanc. Bon, voilà. C'est, ça vous donne l'idée, l'image. Très drôle, très efficace. Mais voilà, une campagne politique, c'est pas anodin de choisir ça comme scénario. Quoi. Ça révèle toutes les faussetés. Et alors, ceux qui en prennent le plus dans la tronche, c'est quand même le Rassemblement National.
Un peu plus que les autres.
Vous êtes taquin avec
prennent,
eux, quand
ils
même.
Prennent tous. Hein. Non, ils prennent tous.
Ah, vous êtes très taquin avec le Rassemblement National. Ouais, qu'est-ce que vous leur reprochez, quoi?
Non, mais qu'est-ce que je peux leur reprocher? Bah, c'est un peu, vous en parlez tout à l'heure dans votre chronique. Il y a le côté un petit peu droite molle qui est un peu fatigante des fois. Je comprends le principe de dédiabolisation. Je comprends qu'il faut pas arriver en costume Hugo Boss et dire des horreurs, mais faut quand même se calmer quoi. C'est-à-dire que les seules fois où Marine sort de sa torpeur, c'est pour dénoncer un de ses députés ou de ses conseillers qui a dit un truc un peu raciste sur Facebook en 2014 quoi. C'est un peu épuisant. Et moi ça me fatigue parce que je pense pas. Que c'est en donnant des gages à la gauche ou à quiconque d'autre d'ailleurs qu'on va se faire que ça va fonctionner. Ça envoie des signaux de faiblesse et je trouve que c'est démoralisant. Quand on voit des séquences de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, on le voit qu'il rentre dans l'art d'un plateau de 10 journalistes en entier. Bon, bah, on sort de là, on est un petit peu la patate, on se dit la vache, voilà un type qui nous défend, voilà un type qui a du panache. Bon, l'autre là. Enfin, moi, je.
Elle vous inspire pas plus que ça, quoi.
Elle m'inspire pas plus que ça, et tous les gens dans son sillage, je trouve que ça manque un petit peu de patate, quoi.
Alors, dans la scène politique actuelle, dans la séquence qu'on vit actuellement en France et dans la séquence qui va arriver, pour un dessinateur et pour un observateur de la vie et pas que politique, ça va être un bonheur.
Ouais, il y a de quoi faire, oui.
C'est pas l'inspiration qui manque.
C'est pas l'inspiration qui manque. Là, les municipales étaient terrifiantes. On a vu Ciotti qui dansait avec les vieux, là.
Estrosi,
voilà. Enfin, c'est terrible. Il y avait Laurent Bertone qui a fait pas mal de tweets là-dessus. C'est-à-dire que le type, quand il voit que son siège est un petit peu menacé, mais directement, il va chez les musulmans. Enfin, il était prêt à manger un kebab et tout, quoi. C'est absolument délirant. Et là, on voit vraiment l'absence d'honneur intégrale des mecs qui sont vraiment prêts à ratisser tout ce qu'ils peuvent pour garder le pouvoir. Et ça, c'est un cirque qui est en même temps inspirant, en même temps divertissant, en même temps terrible, parce qu'en fait, c'est ces mecs-là qui prennent des décisions. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 50 ans de ce genre de type dans le paysage, ben, on n'est pas trop en forme collectivement, quoi.
Marc Aubrigon.
Alors, vous tirez à boulet rouge sur tout le monde, mais la question, c'est quelle est la limite, en fait? Est-ce que parfois, vous vous dites, là, je vais trop loin, là, il faut que j'arrête? Et si oui, quelle est la limite? Je pense, par exemple, effectivement, à cette case au début de la BD où vous montrez les trois dieux, donc des trois religions du désert. Donc, Allah, évidemment, est censuré, ce qui est une boutade. Mais on se souvient que Gottlieb, lui, avait fait quasiment la même chose dans Ralovli, tome 2, je crois. Et là, en l'occurrence, Allah était bel et bien figuré. Donc, est-ce que c'est une limite que vous imposez? Est-ce que c'est purement une boutade ou, voilà,
c'est une boutade. Oui. C'est pour faire une référence à Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'effectivement, Allah est absolument entouré de noir, avec écrit censuré dessus. C'est évidemment une boutade. Ce serait pas spécialement une limite, encore que moi, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je suis pas très. Je suis ni laïque ni républicain. Donc, moi, la défense de laïcité m'intéresse pas du tout. Donc, c'est pas, ça m'intéresse pas d'attaquer les musulmans sur le thème de la laïcité. La limite que je pourrais avoir, elle est plus globale, c'est que. Ça va vous paraître bizarre, mais j'aime pas ce qui est vulgaire. Ce qui est grossier peut passer. Il y a une différence entre vulgaire et grossier.
Alors, quelle différence faites-vous entre la vulgarité et la grossièreté? Dans un dessin.
Dans un dessin, mais je ne saurais pas comment vous le dire. Pareil, c'est encore une histoire de feeling. Hein. Je suis désolé, c'est pas très académique.
Bah, si vous dessinez, mais... c'est qu'il y a une raison aussi. C'est parce que c'est.
Non, mais qu'est-ce qui peut être vulgaire?
Ça sort comme ça sur un dessin, quoi.
Ça peut être une histoire d'équilibre extrêmement.
Par exemple, Charlie Hebdo, le dessin de Charlie Hebdo. Ouais. Vous trouvez ça vulgaire? Vous trouvez ça grossier? Ou vous le classez où? Alors après, peut-être vous venez dire, il y a plein de dessins, donc ça dépend lesquels.
Ouais, mais globalement, alors même les plus outrancières, je peux les trouver grossières.
Ouais.
Mais pas forcément vulgaire. C'est pas parce que quelque chose est absolument porno, qu'il y a trois gros mots dans le truc, que c'est vulgaire. Ça peut être dosé comme il faut. Mais tout ça, c'est de la grande cuisine. C'est-à-dire que ce soit pour le découpage des BD, que ce soit pour les expressions, dans le choix des mots, dans l'ensemble général, voilà, c'est de la grande cuisine. S'il y a trop de sel, c'est imbuvable. S'il n'y en a pas assez, ça passe pas. Et c'est difficilement explicable. Moi, je sais, quand je fais les choses, je sais quel est le bon dosage. Je ne pourrais pas expliquer comment le faire, ce bon dosage. Mais en tout cas, ma limite, elle est là, c'est que j'aime pas ce qui est vulgaire.
Rémi, Carlu.
Oui, moi j'aimerais vous entendre sur la situation du rire aujourd'hui. On entend souvent dire qu'on ne peut plus rire de rien, d'une certaine manière. Et moi, à l'inverse, vous avez fait de l'humour et du rire votre arme première, d'une certaine manière. Et on a l'impression qu'avec vous, on peut encore rire de tout. Et donc finalement, c'est qu'une question un petit peu de courage. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'effectivement, vous, quel est votre regard là-dessus?
Sur le rire en général. Sur le...
Oui, voilà. Est-ce qu'on peut encore rire de tout? Est-ce que finalement c'est qu'une question du courage de chacun d'être capable de le faire et de ne pas se laisser censurer?
Oui, je pense évidemment qu'on peut rire de tout, bien sûr. Il y a une part de courage. Alors, quoique le courage, c'est un peu excessif comme mot, on va dire, de peut-être un petit peu de bravoure ou de panache, on va dire, de partir du principe que si on juge que quelque chose est drôle, que ça va faire grincer des dents, mais que c'est pas grave. C'est-à-dire y aller quand même en disant, écoute, vas-y. Ouais. C'est comme pour sortir chercher du bois chez soi. On trouve qu'il fait un peu froid, finalement, mais pas de veste. Bah, une fois qu'on y est, ça va finalement, quoi. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire on se jette, on y va, et puis on voit comment ça se passe. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un gendarme intérieur automatique qui fait qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à la 17e pour que finalement il se passe rien et que l'idée soit avortée avant même d'être née. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on dessine un truc et on se dit, tiens, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas offenser Bidule? Est-ce que je vais pas avoir telle assoce? Nous, on s'est posé des questions tout le long. Alors fort heureusement, on a fait exactement ce qu'on voulait faire, mais tout le long, on s'est dit, effectivement, là, ça va grincer, là, ça va être un peu... voilà.
Mais justement, vous ne faites pas l'objet d'une guérilla judiciaire de la part de certaines associations, etc. Ou vous êtes plutôt...
Alors ça a été le cas avec La Furia. La Furia, on a quelques soucis. Pour l'instant, sur mes albums, rien à signaler.
La culture est peut-être encore protégée. Du moins, il y a un statut un peu particulier. Alors que La Furia, ils ont dit, bon, c'est de la presse. On enlève le mot satirique, on dit que c'est de la presse.
Ouais,
sur la bande dessinée, c'est peut-être plus compliqué à attaquer, non?
Alors, c'est plus compliqué à attaquer, mais il y a aussi une réalité, c'est que les gens qui sont à la tête des associations subventionnées, donc SOS Racisme, SOS Ça Va Pas, SOS Je Sais Pas Quoi, sont des grosses feignasses. Ce sont des grosses feignasses, c'est-à-dire que si mes albums n'ont pas été attaqués, c'est qu'ils n'ont pas lu. Ils ont attaqué La Furia à partir du numéro 12 ou 13. S'ils avaient lu ce qu'il y avait avant, voilà. Donc en gros, ils ont dû tomber, je ne sais pas, une moche quelque part qui avait fait une photo avec La Furia en kiosque. Ça a interpellé SOS Racisme. Ils se sont dit, tiens, on va lire un petit peu. Et coup de bol, ils sont tombés sur le machin, ils ont vu un article de je ne sais pas qui, Papacito, moi ou peu importe. Et là, ils se sont dit, on attaque. Mais avant, ils foutaient rien du tout. Donc en gros, il faut leur amener en plus les machins tout cuits dans le bec pour qu'ils décident d'attaquer.
Et vous leur envoyez vos albums par la poste avec
Je me tâte. Hein. Si j'ai pas de nouvelles d'ici un mois ou deux, j'y vais. Oui, on envoie.
Vous leur envoyez. Et quelles sont vos relations avec le milieu de dessinateurs de presse, avec le milieu de l'édition, avec le milieu de la bande dessinée? Elles sont, vous n'en avez pas?
Aucune.
Ou, d'accord.
Aucune. Non, aucune. Aucune, j'en cherche pas. Parce que...
Non mais eux pourraient vous chercher ou dire il y a un truc, oui mais c'est embêtant parce que tu dis ça, non
ouais. Non, pas du tout, non. C'est, j'ai aucune relation avec ce milieu, ce qui me va très bien parce que j'aime pas parler boulot. Là on parle boulot parce qu'effectivement j'ai une BD qui sort, on discute un petit peu du parcours, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je veux dire, faire des soirées chez moi avec des mecs qui font le même boulot, rapidement ça me gonflerait, quoi. On finirait par parler des... du boulot, et moi quand j'ai fini de bosser quoi.
Et alors, parce que je me dis, moi, si j'avais un peu d'argent à investir et que Laura Manier cherchait des capitaux, je me dis j'investirais chez vous, parce que avec le grand courage de la droite qui ne cesse de grossir, la censure qui ne cesse de s'étendre, les indignations qui se développent pour la moindre truc, je me dis forcément, ça va marcher, vos BD, les revues satiriques, c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Donc, je me dis, il y a un avenir quand même,
Ça marche
en tout
déjà,
cas financier,
hein.
Peu sympathique.
Oui, non, mais c'est possible, hein, c'est possible.
Ça, justement, est-ce que l'édition Magnus, c'est une boîte qui fonctionne? Ouais, la Furia se vend beaucoup, vos bandes dessinées se vendent très bien
Tout se vend très bien, les affaires tournent vraiment bien, quoi. Or, c'est pas non plus, on n'est pas faillard, hein. Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir un travail à côté, quoi. Donc, je vis de mon travail sans aucun problème.
Est-ce que vous avez des projets?
Autres que la BD?
Non, dans la BD.
Ah, oui, je vais travailler je vais commencer à travailler dans quelques jours sur mon prochain album, qui sortira à la rentrée, qui sera un mini-album, un petit truc. Parce que ça aussi, il faut en parler, il faut en parler. J'ai l'impression que je vais sortir un truc gravissime, mais ce genre d'album-là, donc 70 pages d'une histoire complète qui se suit, c'est très énergivore et très chronophage. Et moi, ma vie a changé depuis quelques temps. Je suis l'heureux papa d'une magnifique petite fille.
Bravo, ça prend du temps.
Merci, ça prend du temps. L'ambiance n'est pas du tout la même. Et évidemment qu'il faut consacrer du temps à cette petite personne. Et du coup, le format des albums comme ça pouvait l'être avant, pour l'instant, en tout cas, je dois faire une pause. Ce qui me va bien, cela étant, parce que c'est des machines qui sont assez lourdes. Il faut rester vraiment concentré pendant un an dessus, c'est tout le temps. Et là, je suis dans une période de ma vie où j'ai peut-être envie d'un peu plus de légèreté. Et donc, ça tombe absolument bien. Donc maintenant, les albums seront un peu plus... plus léger.
Plus léger.
Mais dans le sens, comment dirais-je...
Non, mais plus en format. Non, vous n'allez pas faire des albums feel good, comme on dit.
Non, je parlais vraiment du format.
J'ai compris.
C'est-à-dire dire autant de saloperies, mais sur un format réduit.
Sur un format plus court.
Et plus sympa.
Il va falloir choisir, hiérarchiser. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marceau, d'être venu au micro de Restons Courtois. Donc, je rappelle, votre bande dessinée, Objectif 2027, le candidat imprévu, vous l'avez reconnu puisqu'il est en couverture, c'est aux éditions Magnus, et donc vous le commandez sur le site des éditions Magnus. Le temps d'une petite pause, et on se retrouve juste après pour parler d'histoire. Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Et nous avons la chance, la joie de recevoir Dominique Lormier. Dominique Lormier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes historien, écrivain, spécialiste reconnu des histoires militaires et notamment de tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les grandes batailles, des figures connues et moins connues. Vous avez écrit une centaine d'ouvrages. Et donc, vous avez publié « Les vérités cachées de la victoire de 1945 », dans lequel vous remettant en question des faits un peu trop affirmés ou d'autres qui sont oubliés ou passés sous silence ou pas tout à fait exacts. Donc, vous revenez sur, notamment, on en reparlera longuement, sur l'apport sous-estimé de la France dans cette victoire. Vous rappelez également que cette victoire n'est pas l'unique triomphe des États-Unis, mais aussi les armées soviétiques, britanniques. Bref, vous l'aurez compris, chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, et lorsqu'elle ne se contente pas de rester des formules apprises par cœur, notamment à l'école, mais qu'on cherche à comprendre, à nuancer, et restez avec nous. Mais avant de nous plonger donc dans la victoire de 1945, nous avons une tradition, vous le savez maintenant, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous. Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Dominique Lormier, quelle figure militaire du XXe siècle vous fascine le plus?
Alors, c'est un général italien méconnu, qui est le général Giovanni Meis, qui a commandé le corps expéditionnaire italien qui s'est battu sur le front russe en 1941-1942. Il y a eu 300 000 soldats italiens qui se sont battus en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous avez à peu près les trois quarts qui ne sont jamais revenus. Et c'était un fin tacticien, et il a commandé ensuite les troupes italiennes en Tunisie, où elles ont tenu tête face à des troupes alliées qui étaient 10 fois supérieures en nombre, et elles ont tenu tête pendant plusieurs mois, où elles ont opposé également une résistance héroïque, puisqu'il y a une partie de mon livre justement qui est consacrée également aussi à la bravoure méconnue des soldats italiens qui ont combattu souvent avec une bravoure extraordinaire durant cette période-là. Et c'est généralement totalement méconnu.
Si vous pouviez assister ou participer à un événement historique, ce serait lequel ?
Alors, c'est en lien justement avec le livre que j'avais cité. Ce serait un événement d'ailleurs totalement méconnu aussi. C'est la libération de la poche du Médoc en avril 1945, qui s'est déroulée entre le 14 et le 20 avril 1945. Ce sont des unités issues de la résistance qui avaient été créées et qui avaient formé ce qu'on a appelé la brigade Carnot, qui était commandée par le colonel de Milleret, qui était issu de l'organisation de résistance de l'armée. Et ça a regroupé tous les maquis du sud-ouest qui ont été intégrés dans cette brigade et qui ont libéré cette poche de résistance allemande, comme la poche de Royan également, qui a résisté du mois de septembre 1944 jusqu'au mois d'avril 1945. Et il y a eu une bataille finale extrêmement dure. C'était un petit Verdun en miniature. Il y a eu des milliers de bombes qui ont été larguées pour réduire les poches à la poche allemande, puisque vous aviez à l'intérieur de la poche 4000 Allemands, vous aviez plus de 200 000 mines, 110 pièces d'artillerie, et il a fallu enlever ça d'assaut, comme en 14, avec des unités FFI qui étaient équipées de briques et de brocs, et qui ont finalement réussi à vaincre la résistance allemande.
Churchill, de Gaulle ou Eisenhower ?
Le général de Gaulle, bien entendu.
Le livre d'histoire que tout honnête homme devrait avoir lu.
Encore en lien avec De Gaulle, je citerai le livre de mon ami Eric Branca, L'ami américain, où il met bien en avant l'impérialisme américain contre lequel le général De Gaulle a lutté avec courage et intelligence.
Quelle est l'erreur historique la plus souvent, et la donc trop souvent répétée ?
Que l'armée française ne s'est pas battue en 1940, alors que les Allemands ont eu 50% de leurs chars et de leurs avions mis hors de combat en 6 semaines de combat, et que la résistance acharnée des troupes françaises a permis le rembarquement des troupes britanniques permettant à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre, puisque ce sont les troupes françaises qui ont défendu la poche de Dunkerque face à des troupes allemandes 10 fois plus importantes.
Ce qu'a oublié Christopher Nolan dans son film. Un personnage de la Seconde Guerre mondiale que vous auriez aimé interviewer?
Le général Pierre Koenig, parce que c'est un militaire sorti du rang. Il n'est pas passé par Saint-Cyr, et c'est l'homme de Birakeim qui a symbolisé, je dirais, d'une certaine manière, le retour de la France victorieuse dans la Seconde Guerre mondiale, avec la brillante campagne d'Italie aussi du général Juin. Et Koenig, c'est quand même l'homme qui a résisté face à des troupes allemandes et italiennes 10 fois plus nombreuses durant 3 semaines, ce qui a permis le rétablissement des troupes britanniques à Île-Allemagne. Et d'ailleurs, Rommel a reconnu que la résistance la plus héroïque qu'il avait rencontrée durant la guerre du désert avait été contre les Français libres à Birakeim.
Et quelle est la bataille la plus injustement méconnue ?
Alors là, c'est en lien avec la Première Guerre mondiale, c'est la bataille de Lissanzo, où il y a eu 11 offensives près de Trieste, menées par l'armée italienne contre les Autrichiens. Il y a eu 600 000 Italiens tués ou blessés, et 400 000 Austro-Hongrois. Il y a eu donc 1 million d'hommes mis hors de combat durant cette bataille. Elle a été beaucoup plus meurtrière que la bataille de Normandie ou que d'autres batailles, et elle est totalement méconnue en France. ça a été le Verdun italien de la Première Guerre mondiale.
Et quelle est celle la plus injustement trop connue ?
Eh bien, justement, le débarquement de Normandie, que l'on nous ressort, je dirais, à chaque année. Alors qu'il y a eu un autre débarquement qui, lui, était à 60% composé de troupes françaises, c'est le débarquement en Provence, et mené d'une main de maître par le général Delatte de Dassigny et également d'autres généraux issus de l'armée d'Afrique.
On en reparlera, évidemment. Et enfin, dernière question, quel est le document d'archives qui vous a le plus marqué ?
C'est celui que j'ai utilisé dans un livre qui s'intitulait « Les 100 000 collabos », qui était un document venant du colonel Payol, du ministère de la guerre du 5e bureau de 1945. Le colonel Payol a travaillé pour les services de renseignement français durant l'entre-deux-guerres et après durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été un des rares officiers d'ailleurs à être au courant du jour du débarquement, c'est pour vous dire la confiance qu'avaient les Américains en lui. Et il avait constitué un fichier de 100 000 noms de gens qui avaient collaboré avec les Allemands et qui a fait l'objet d'un livre que j'avais sorti aux éditions du Cherche Midi il y a quelques années. Alors, on n'avait pas voulu faire un livre de délation, c'est-à-dire c'était un livre uniquement qui racontait l'histoire du fichier et on présentait un certain nombre de noms, mais parmi les plus connus.
Merci Dominique Lormier. Maintenant, on va passer donc dans votre livre passionnant, « Les vérités cachées de la victoire de 1945 aux éditions du Rocher ». Alors, première question, c'est pourquoi ce livre aujourd'hui ? Quel besoin avez-vous ressenti de publier cette réhabilitation de certains faits ?
Alors, ça va dans la trame de plusieurs livres que j'ai fait avec des éditions du Rocher, c'est-à-dire des vérités cachées. J'avais fait les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, qui a d'ailleurs été un best-seller. Il est même sorti en chinois. Ça a été un gros succès. On a fait ensuite les vérités cachées de la France sous l'occupation, les vérités cachées de la résistance, les vérités cachées de la libération, et également les vérités cachées de la défaite de 40, qui était sortie en 2020. Et c'est le dernier opus, donc « Les vérités cachées de la victoire de 45 ». Pourquoi ? Parce que j'ai voulu mettre en avant des faits méconnus qui sont généralement souvent ignorés, victimes d'une certaine forme de masochisme national qui est très à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire on sous-estime l'apport de la France à la victoire des Alliés, alors qu'il a été, cet apport a été décisif, ne serait-ce que par la résistance intérieure qui a fourni 80% des renseignements ont permis le succès du débarquement en Normandie, à travers notamment deux grands réseaux. Le réseau de la confrérie Notre-Dame, qui avait été fondée par le colonel Rémy, un nationaliste de droite, et également le réseau Alliance du colonel Loustonolaco, qui a été aussi un des plus importants réseaux. Et ces deux réseaux ont fourni aux Alliés quasiment l'implantation de toutes les unités allemandes sur toute la façade atlantique jusqu'à Lille. Et donc, véritablement, les Alliés connaissaient parfaitement l'implantation des unités allemandes et ce qui a décidé du choix du débarquement en Normandie. Ça a été un des apports capitaux de la résistance dans la victoire des Alliés, à travers également aussi des grandes figures marquantes que je présente dans mon livre. L'apport important de la résistance dans la libération aussi, avec les combats avec les maquis. Également, j'ai voulu montrer que l'apport américain avait été certes important, mais je rappelle quand même deux chiffres sur les 5 500 000 Allemands morts pendant la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont tombés contre l'armée soviétique. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même 60% d'armée allemande qui s'est trouvée face à l'armée soviétique. Alors, ce n'est pas tellement à la mode aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais il faut quand même rappeler l'apport capital de l'armée soviétique dans la victoire des Alliés, même si les Américains également, eux aussi, avaient bien entendu un apport important, ainsi que les Britanniques, qu'on oublie souvent, et bien sûr la France.
Alors, moi, j'aime bien, c'est qu'on parle de l'arrière-cuisine ou des préparatifs. Comment vous travaillez en tant qu'historien ? Quelle est votre matière principale ? Et comment vous construisez, je suppose, une recherche au début et ensuite l'aboutissement par un livre après ?
Alors, ça fait depuis, on va fêter en 2016, en 2026, mes 40 ans de travail d'auteur, parce que j'ai sorti mon premier livre en 1986, c'était l'Italie en guerre 1915-1918, la guerre dans les Alpes, justement entre les Italiens et les Autrichiens. J'ai écrit à peu près 180 ouvrages sur différents sujets, mais principalement sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, ma méthode de travail, elle est très simple. J'ai eu la chance de rencontrer parmi les plus importants témoins, je dirais, clés de la période dans les années 70-80, qui étaient encore en vie. J'ai également vu les témoins des deux camps, aussi bien du côté allié que de l'Axe, que j'ai eu la chance de pouvoir interroger. J'ai consulté de très nombreuses archives, et notamment des archives inédites. En tant que membre de l'Institut Jean Moulin, j'ai eu la possibilité de pouvoir consulter de très nombreuses archives. Donc j'ai eu à la fois, je dirais, un apport oral par le témoignage et un apport écrit par justement les archives et les documents. Donc je dirais que ça a été les deux axes, plus également des études sur le terrain où je me suis rendu en différents endroits pour sentir un peu l'atmosphère de ce qui s'était passé. Là, je me suis rendu récemment à Royan et je sentais encore l'atmosphère de cette ville qui avait été rasée en janvier 1945 par les Alliés. Et on sent encore les stigmates véritablement de la guerre de cette ville qui a été rasée pendant cette période-là.
Alors, on va rentrer dans votre livre et on va commencer par la France, parce que déjà vous commencez par la France et puis parce que nous sommes chauvins. Pourquoi le rôle de la France dans la victoire de 1945, que vous rappelez, a-t-il été si longtemps sous-estimé, voire même ignoré? Est-ce qu'il y a une raison?
Alors, il y a eu l'après-guerre de 1945, où on a voulu nous faire croire avec la propagande gaulliste et communiste qu'il n'y avait eu que des résistants en France. Il y a eu ensuite la période contestataire de 1968, avec notamment le film Le Chagrin et la Pitié, où on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des collabos en France, alors que la réalité est beaucoup plus, je dirais, complexe. Et en vérité, il y a eu une majorité de la population qui était attentiste, une minorité dans la collaboration et une minorité dans la résistance. Il y a eu à peu près entre, je dirais, 200 000 et 400 000 personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré avec les Allemands pour différents motifs. Mais il y a eu 1 500 000 Français qui, soit dans les rangs de la résistance, de l'armée d'Afrique ou dans les forces françaises libres, qui ont participé au combat de la résistance à intérieure ou extérieure. Donc, il me semblait important, je dirais, de restituer justement cette réalité historique et de mettre en avant le rôle important qui avait été joué par la France dans la victoire des Alliés et qui démarre dès la campagne de 1940, puisque le sacrifice de l'armée française en 1940 a permis leur embarquement. Il y avait 450 000 soldats britanniques en mai-juin 1940 sur le sol français. 400 000, on peut rejoindre la Grande-Bretagne et je dirais en quelque sorte défendre le sol anglais, et grâce au sacrifice des troupes françaises. D'ailleurs, Churchill l'a reconnu dans ses mémoires de guerre. Donc, je dirais que l'apport de la France démarre dès la campagne de 40, avec ensuite la bataille de Bir Hakeim qui va permettre le rétablissement des Britanniques à Île à la Main.
Oui, parce que vous dites...
La campagne d'Italie, et ainsi de suite.
Vous dites justement que vous citez la bataille de Bir Hakeim, donc en 42, et vous dites même que c'est un tournant stratégique.
Pour la guerre en Afrique du Nord.
Pour la guerre en Afrique, oui. Alors,
ça a été reconnu à la fois par Churchill et par également Rommel. Rommel a dit que ça avait été la résistance la plus acharnée et ça a permis le rétablissement de la 8e armée britannique à Île à la Main. Puisque Hitler a commis une faute. C'était un fin tacticien, mais un piètre stratège. Et il a commis l'erreur de vouloir absolument anéantir cette poche de résistance, alors qu'il aurait pu la laisser, je dirais, dans le désert et poursuivre et détruire la 8e armée britannique qui était en pleine retraite. Et il a commis l'erreur de vouloir fixer, 60% de ses troupes pour essayer de réduire cette poche qui lui résistait. Il ne supportait pas d'être tenu en échec par cette brigade de Français libres, où on retrouvait d'ailleurs des Français de toute origine issus de l'Empire.
Alors, vous l'avez dit au début, lors du questionnaire, vous rappelez évidemment le rôle important de la résistance, et vous dites même que sans résistance, le débarquement compliqué, le débarquement normandais.
Le général Eisenhower l'a dit textuellement dans ses mémoires de guerre, ainsi que Winston Churchill, et d'ailleurs Eisenhower a même dit sans vos troupes du maquis, peut-être qu'on n'aurait pas pu réussir un débarquement qui aurait aussi bien réussi, parce qu'il faut savoir que sur les arrières des troupes allemandes, et ce n'est pas moi qui le dis, le général von Rundstedt a dit qu'on avait été pris entre deux feux, le feu des Alliés et dans le dos par celui de la résistance. Il faut savoir que durant la première semaine du débarquement, il y a eu 1200 sabotages ferroviaires qui ont totalement bloqué l'arrivée des renforts allemands et ça a été une des réussites de la résistance. On met souvent en avant d'ailleurs souvent deux batailles, la bataille du Vercors et la bataille des Glières, qui ont été des échecs tactique et stratégie de la résistance, mais on oublie de dire qu'il y a eu des combats mémorables menés dans le sud-ouest, en Bretagne et ailleurs, qui ont fixé d'importantes garnisons allemandes Et il y a eu le cas aussi, notamment, la destruction de la colonne allemande Elster, qui peut être un des plus gros fusillades de la résistance française.
Alors peut-être que vous pouvez nous raconter ça. Vous pouvez peut-être en effet nous raconter.
C'est la retraite des troupes allemandes du sud-ouest. Vous avez à peu près environ plus de 25 000 soldats allemands qui, suite au débarquement des Alliés en Normandie et celui de Provence, risquent d'encercler les importantes garnisons allemandes qui se trouvent dans le sud-ouest et dans le centre de la France. Et les troupes allemandes reçoivent l'ordre donc d'évacuer ce quart du territoire national pour rejoindre au plus vite l'est de la France pour former un front dans les Vosges et en Alsace. Et donc ces garnisons allemandes vont s'étaler entre les Pyrénées jusque dans l'Indre et elles vont se heurter à 105 embuscades de la résistance, ce qui va totalement disloquer cette colonne allemande Elster et qui va être contrainte de capituler en race campagne devant le colonel Chomel, qui avait formé une brigade issue de l'organisation de résistance de l'armée, la brigade Charles Martel, mais qui était en vérité, on y retrouvait également tous les maquis du sud-ouest qui ont mené donc ces actions de harcèlement qui ont été très bien menées par des unités de la résistance intérieure, composées d'officiers de l'armée française, mais également aussi de ce qu'on appelle les équipes Jetburg, qui étaient des unités parachutistes alliées qu'il ne faut pas oublier. Elles fonctionnaient à trois, généralement, par maquis, c'est-à-dire il y avait un Français issu du mouvement gaulliste, et il y avait un Britannique et un Américain qui étaient chargés de l'instruction de ces maquis dans la guérilla mobile. Et la guérilla mobile a été très efficace dans le sud-ouest, puisqu'il y a eu de nombreuses garnisons qui ont été capturées et mises hors de combat, dont cette colonne Elster, 25 000 Allemands mis hors de combat uniquement par les forces du maquis.
Alors il y a les résistants, on a parlé, mais le jour du débarquement, en tout cas au moment du débarquement de Normandie, vous rappelez, c'est très 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 important, qu'on a souvent la mauvaise habitude de parler que des 177 fusillés marins du lieutenant Kieffer, qui est devenu le commando Kieffer. Vous dites, il y a eu beaucoup d'autres, vous intitulez d'ailleurs français, oubliés de Normandie et de Bretagne. Alors est-ce que vous pouvez nous refaire un petit état des lieux des troupes françaises au moment du débarquement?
Alors il faut à la fois comptabiliser les troupes qui débarquent et les troupes qui se trouvent à l'arrière et qui mènent à guérilla également. Parce que c'est lié justement également aussi à la bataille de Normandie, et il faut la lier également, la rattacher à la bataille de Bretagne aussi. Il faut savoir qu'il y a eu deux régiments parachutistes de la France libre qui ont été parachutés en Bretagne et qui, avec les maquis, ont mené une guérilla intense. Il y avait à peu près 150 000 soldats allemands en Bretagne et vous en avez la moitié qui ont été fixés, qui n'ont pas pu intervenir à temps pour rejeter les alliés à la mer en Normandie et qui ont été fixés dans la guérilla justement menée par les maquis et justement par ces deux régiments parachutistes de la France libre. D'ailleurs, même le général Patton et le général Eisenhower a dit que sans l'action menée décisive par ces maquis, le débarquement, les Alliés auraient pu être rejetés à la mer, parce que les Allemands auraient pu avoir les réserves suffisantes, les réserves stratégiques pour mener une contre-offensive, juste du fait de l'importance des troupes allemandes en Bretagne. Et d'autre part, non seulement il y a eu donc les 30 000 maquisards et Fifi, les 3000 parachutistes de la France libre, mais il faut comptabiliser aussi les navires FNFL, les forces navales françaises libres qui ont participé au débarquement de Normandie, les groupes de chasse et les groupes de bombardiers de la France libre qui ont participé également à des combats aériens et des attaques au sol des unités allemandes. Il ne faut pas oublier par exemple que Rommel a été blessé en Normandie par un chasseur qui était piloté par un pilote français de la France libre, sur un avion typhon. Et il y a eu également les combats de la 2e DB qui a débarqué en Normandie aussi, qui a mené des combats et qui a participé à la destruction des troupes allemandes dans la poche de falaise. Donc si on additionne l'ensemble, on a en vérité plus de 60 000 Français qui ont participé au combat en Normandie. Et puis l'impact stratégique aussi des sabotages ferroviaires sur l'ensemble du territoire national sont également à être reliés aussi au succès du débarquement en Normandie, puisque les renforts allemands n'ont pas pu arriver à temps du fait des sabotages sur tout le territoire national. On sait que, par exemple, la division d'Eisreich a été retenue. Elle n'est arrivée qu'avec 50% de ses effectifs en Normandie. Elle avait été attaquée dans le Limousin et elle était constamment attaquée par les maquisards et elle est arrivée seulement avec la moitié de ses effectifs. Si elle était intervenue à temps dès le début juin, elle aurait mis en danger les les unités alliées. Ça a été reconnu également par les Alliés, mais aussi bien aussi par les Allemands.
Alors c'est vrai que quand on parle de débarquement, on oublie souvent qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Vous l'avez rappelé également, il y a celui de Provence, mais qui est souvent relégué au second plan et qui est d'ailleurs peu enseigné, donc forcément assez méconnu. Alors pourquoi est-il relégué au second plan ? C'est parce qu'il y a toute la mythologie anglo-saxonne et française sur le débarquement, avec les films, avec les livres, ou il y a une autre raison ? Et peut-être pouvez-vous nous dire aussi l'importance du débarquement de Provence dans la victoire de 45.
Alors, effectivement, il y a, je dirais, toute la propagande hollywoodienne à travers un film comme Le jour le plus long ou Le soldat Ryan. Le jour le plus long, on voit quand même les différents soldats alliés. Dans Le soldat Ryan, on ne voit quasiment que les soldats américains. C'est pour nous faire croire que le débarquement était uniquement une affaire américaine, alors que 60% des troupes qui débarquent en Normandie le 6 juin 44 sont des troupes canadiennes et britanniques. Ils vont d'ailleurs concentrer à peu près 75% des Panzerdivisions qui seront engagées en Normandie contre les Alliés, puisqu'elles vont lutter dans la région de Caen contre des unités de Waffen-SS fanatisées, notamment des unités blindées. Et ce sont les Britanniques qui vont subir le choc principal. Généralement, on ne le met pas suffisamment en avant. D'autre part, effectivement, il y a eu aussi la campagne d'Italie aussi, il faut y revenir, en 43-45. Il faut savoir que les troupes qui ont enfoncé le front allemand en Italie, ce sont les troupes du général Juin, et ce sont les mêmes troupes qui vont débarquer en Provence, qui seront commandées cette fois par le général de l'Alde de Tassigny. Et l'apport, je dirais, stratégique du débarquement de Provence, il faut savoir d'abord que 60% des troupes qui vont débarquer en Provence sont des troupes françaises. Il y aura 250 000 soldats français issus de l'armée d'Afrique. D'ailleurs, des Maghrébins, des Africains, des Pieds Noirs, également des troupes venues des territoires d'outre-mer, des Français également, des évêques de France. Donc il y a, je dirais, toutes les composantes de l'Empire dans cette armée d'Afrique. Et également, un apport stratégique aussi du fait de la libération de deux ports importants en Méditerranée qui vont permettre le ravitaillement de 14 divisions alliées. C'est le port de Toulon et de Marseille qui vont être libérés uniquement par des troupes françaises. 250 000 Français, 150 000 soldats américains qui vont débarquer en Provence et un succès retentissant de l'armée française, de l'armée d'Afrique. Il y aura plus de 60 000 soldats allemands capturés durant ce débarquement et une remontée jusqu'à la vallée du Rhône. Les Allemands sont pris en étau à la fois par l'avancée des troupes alliées en Normandie et par, l'avancée des troupes franco-américaines dans la vallée du Rhône, ce qui vient que ça va précipiter le départ des Allemands sur le territoire français et les contraindre à mener une guerre défensive en Alsace et dans les Vosges, et du fait de l'apport, je dirais, conjugué de ces deux débarquements.
Alors, vous avez rappelé donc les victoires en France, vous l'avez rappelé avec la victoire dans l'Inde contre la colonne allemande Elster, le débarquement en Provence. Mais vous rappelez également, et c'est vrai qu'on en parle moins, on n'en parle pas même, ce sont les victoires françaises en Allemagne. Quel rôle a joué la France en Allemagne ? Dans la continuité de la guerre, parce qu'on 6 juin 44, il s'est passé des choses ensuite. Quel a été l'apport et le rôle de la France ?
D'abord, il convient de rappeler que sur les 600 km de front du front ouest, vous en avez à peu près entre 250 et 300 qui vont être tenus par des troupes françaises à partir d'octobre 1944 durant tout l'hiver 1945. Donc, ce sont également les poches de l'Atlantique où vous aurez 90 000 soldats allemands qui sont enfermés dans ces poches face à 80 000 soldats français. Donc, si on additionne également le front des Alpes occidentales, 400 km de front, les troupes françaises vont être engagées. Donc, vous faites le calcul sur à peu près 800 km de front tenus uniquement par des troupes françaises, alors que les Américains et les Britanniques vont tenir grosso modo à peu près 500 km de front sur l'ensemble du théâtre occidental. Donc, ce sont des faits avérés. Et d'autre part, ces troupes françaises, effectivement, vont libérer les Vosges et l'Alsace. La division Leclerc, c'est elle qui va libérer Strasbourg. Et l'armée du général de Lede de Tassigny va participer à la campagne d'Allemagne. C'est elle qui va occuper un quart du territoire allemand dans le sud de l'Allemagne et descendre jusqu'au Tyrol autrichien. C'est la division Leclerc qui va occuper le Nidec, le Dittler à Berchtesgaden. donc, et qui vont capturer à peu près 400 000 soldats allemands en Allemagne après des combats extrêmement durs, parce qu'ils vont sortir des unités SS fanatisées qui ne veulent pas se rendre. Et ce sont ces unités françaises donc, qui vont participer et qui vont permettre à la France de figurer parmi les quatre grands signataires de l'acte de l'expulsion de l'Allemagne, puisqu'il y aura la délégation soviétique à Berlin en 1945.
Alors ça, on va en reparler parce que c'est un passage très amusant qu'il faut voilà, que vous allez nous raconter. Mais alors, il est 19h, le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite après.